entendu d'abord l'équation de Grosz-Pitaïski. Et je voudrais d'abord faire une introduction pour préciser de quoi il s'agit et quel est le but que nous poursuivons. Donc, dans les cours précédents, j'ai introduit les paramètres essentiels décrivant les processus de collision entre deux atomes, introduit la longueur de diffusion, la portée effective, et j'ai simplifié le problème en introduisant un pseudo-potentiel qui est plus facile à manier et qui donne les mêmes éléments de matrice et les mêmes effets que le vrai potentiel, en négligeant toutefois la portée effective, en gardant que la longueur de diffusion. Alors aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin, nous allons prendre N bosons identiques, dans un potentiel extérieur de R, dans un potentiel de piégeage, que la plupart du temps je prendrai soit harmonique, soit nul, c'est-à-dire si les bosons sont dans une boîte, parce qu'on avait extérieur et nul sauf sur les parois, ou dans un potentiel harmonique, et en équilibre thermodynamique à la température à T égale 0 degré 4. Et la question qu'on se pose, c'est d'abord, quelle est la Hamiltonienne qui décrit la dynamique du système? Ça, on peut l'écrire tout de suite. C'est H égale sigma de I égale 1 à N de Pi carré sur du M. Énergie cinétique, c'est sigma plus V extérieur de RI. Donc, somme des énergies cinétiques et des énergies de potentiel de piégeage, plus 1 demi, sigma sur I, sigma sur J différent de I, de V de RI moins RJ. Alors, V de RI moins RJ qui ne dépend presque de la distance RI moins RJ, le module de RI moins RJ, et le potentiel d'interaction entre une paire de particules, et je sors sur toutes les paires, le facteur 1,5 ici est introduit pour éviter dans la sommation de compter deux fois la même paire en prenant I, J ici, puis J, I ici. Donc, il faut diviser par deux si on somme indépendamment sur I et sur J différent de I. Alors, si on veut calculer la structure du condensat obtenu quand tous les atomes se condensent à T égale 0, ils vont tous se condenser, il faudrait trouver l'état fondamental de H. Il faudrait trouver la fonction d'onde, qui est l'état fondamental de H. Et connaissant cette fonction d'onde, je pourrais tout calculer. En particulier, je pourrais calculer la force du condensat, en calculant la densité à une particule, en calculant la probabilité de trouver une particule en un point quelconque de l'espace, en voyant comment elle varie avec R, je trouverai la forme du nuage. Je pourrais aussi calculer les corrélations entre particules, en calculant la fonction de corrélation, la probabilité de trouver une particule en un point et d'en trouver une autre en un autre point. Et je pourrais calculer, si je connaissais la fonction d'onde de l'état fondamental, je connaîtrais toute la structure du condensat. Alors, il y a toute une série de méthodes pour calculer l'état fondamental de H. Aujourd'hui, nous allons prendre la plus simple possible, qui est évidemment une méthode approchée parce que la résolution exacte de ce problème est complexe, et c'est pas vraiment possible. On va essayer de prendre une méthode variationnelle. On va donc suivre une méthode variationnelle qui ne doit pas nous très familière en physique atomique. On va prendre un sous-espace de l'espace de Hilbert, des n particules, et on va minimiser dans ce sous-espace la valeur moyenne de l'énergie. On va chercher dans un sous-espace, pour quelle valeur de psi, la quantité psi h psi sur psi psi est minimum. Et cette valeur minimale nous donnera une approximation par excès de la valeur de l'énergie de l'état fondamental. Et la valeur de psi aussi nous donnera une approximation de la fonction d'onde de l'état fondamental. Plus je prends un sous-espace variationnel grand, plus l'approximation sera bonne. Évidemment, si je prenais tout l'espace de Hilbert, à ce moment-là, j'aurai la fonction exacte. Alors, ce que nous allons prendre un sous-espace dans l'espace de Hilbert constitué par l'ensemble de tous les quêtes possibles que j'appelle des quêtes produits qui sont de la forme phi de 1, phi de 2, phi de i, phi de n. Donc ça, c'est un quête produit. Je suppose donc que toutes les particules sont toutes dans le même état, phi, mais à part ça, phi peut être quelconque. Donc il y a quand même un grand espace. Simplement, toutes les particules sont dans le même état, c'est un état produit qui est visiblement symétrique, puisque ce qu'est est invariant dans toute permutation des particules. Donc il satisfait bien au postulat de symétrisation pour des bosons. Et je vais chercher la valeur minimale, quel est le phi qui rend minimale cette quantité. On m'a dit quel est le meilleur phi. C'est-à-dire celui qui minimise une quantité que je peux appeler E de phi, qui est psi à psi sur psi psi, où psi est donné par ce produit. Alors, cette quantité est appelée une fonctionnelle. En effet, à toute fonction phi que je choisis arbitrairement, je passe aussi un nombre. Un nombre qui est donc la valeur moyenne de h dans cet état, divisé par la norme de psi. Donc c'est à chaque fonction phi, j'associe un nombre, et je cherche quel est le ket phi individuel qui minimise l'énergie totale. Alors, il est bien clair que quand je fais cela, je perds toute corrélation. Comme l'état du système des n particules est un état produit, il n'y a plus de corrélation de position des particules. Si une particule est là, la probabilité qu'une autre particule soit là est indépendante de la première. Par définition même de mon sous-espace, j'ai perdu les corrélations. Néanmoins, nous allons voir qu'on va trouver pour l'équation du mouvement de phi une équation qui tient compte de la dynamique de chaque particule dans le potentiel extérieur V de R, V extérieur de R, et dans le champ moyen créé par les n-1 autres. Alors ça nous rappelle beaucoup la physique atomique. En physique atomique, on a affaire à des fermions qui sont les électrons. Et au lieu de prendre des quatre produits symétriques, comme on fait ici, on prend des quatre produits antisymétriques, c'est-à-dire des déterminants de Slater. On prend des déterminants de Slater et on cherche, qui sont des états produits, avec néanmoins, ce n'est pas quand même des états produits, c'est des sommes de produits, il y a donc des corrélations qui sont liées au postulat de symétrisation, qui sont liées au fait que si un électron est là, il ne peut pas avoir un autre électron au même point. Ça, c'est l'antisymétrie. Mais à part ceci, à part ces corrélations liées au postulat de symétrisation, il n'y a pas de corrélation liée aux interactions. On introduit ce déterminant Slater dans l'équation de Schrödinger et on trouve le meilleur état, la meilleure configuration électronique où chaque état est dans une orbitale qui décrit le niveau d'énergie atomique. Donc, la théorie que je commence à exposer aujourd'hui, c'est une théorie de champ moyen qui néglige les corrélations, où on tient compte pour chaque particule du champ moyen exercé par toutes les autres. C'est une notion très importante en physique et qu'on retrouve un peu dans tous les domaines. Souvent, les gens l'appellent apriphoff. Ici, c'est un peu exagéré d'appeler apriphoff parce qu'on a affaire à des bosons, mais en fait, c'est la même idée. C'est la méthode apriphoff. Bien, ceci étant rappelé, je vais maintenant dériver, montrer qu'on peut dériver les bosons. Et bien sûr, il faut d'abord calculer psi h psi. Ceci n'est pas difficile. Alors, je vais d'abord avoir, si je reviens à l'échelle ici, chacun de ces termes ici, pi carré, ne va agir que sur phi. Tous les autres, j différents de i, ça va donner phi j, phi j qui est 1. Je vais supposer, si vous voulez, que phi phi égale 1. Donc, et je vais avoir la valeur moyenne de pi carré dans phi. C'est-à-dire, et comme j'ai n termes, je vais donc avoir moins h bar 2 sur 2m fois n, somme de d3r, phi étoile de r, laplacienne de phi de r. Voilà l'énergie cinétique. Alors souvent, il est commun de la réécrire d'une manière différente en écrivant que la divergence de phi étoile gradient phi, c'est phi étoile laplacienne de phi plus gradient phi en modulo carré. Et si j'intègre ceci dans un volume, l'intégrale de la divergence dans un volume, je peux la ramener à un flux sur la surface. Et si phi étoile et gradient phi tendent vers 0 à l'infini, ce terme donne 0, donc l'intégrale de ceci dans l'espace donne 0, à cos du théorème de la divergence, il me reste que l'intégrale de phi étoile delta phi est égale à moins l'intégrale de delta phi carré, et je peux réécrire ce terme sous la forme d'un terme visiblement positif, qui n h bar 2 sur 2m somme de d3r, gradient phi au carré. Donc l'énergie cinétique, ça représente en quelque sorte la moyenne du gradient phi au carré dans l'espace. Idem pour le terme d'énergie potentielle, j'ai n termes, ils sont tous égaux les uns aux autres, et j'ai donc n fois, et chaque terme vaut l'intégrale de d3r, phi étoile de r, v extérieur de r, phi de r. Quant au terme d'interaction, il vaut n moins, alors j'ai combien de termes? J'en ai n moins, j'ai combien de paires de particules? C'est n2, donc n moins 1 sur 2. D'accord? Et pour chacun des termes, il faut que je calcule la valeur moyenne de VRI moins RJ entre phi de RI, phi de RJ étoile et phi de RI, phi de RJ. Alors au lieu de prendre RIRJ, je prends RR' parce que c'est des variables sur lesquelles j'intègre. Et j'ai donc n moins 1 sur 2, somme de D3R, D3R'. Phi étoile de R, phi étoile de R', V de R moins R', phi de R, phi de R'. Ne regardez pas encore ça pour le moment. Hein. Voilà. Donc voilà l'énergie d'interaction. Donc la valeur moyenne de psi h psi, c'est la somme de ça, plus ça, plus ça. Divisé par psi psi, mais si je suppose que phi phi est égal à 1, psi psi aussi est égal à 1. D'accord? Alors maintenant, j'écris maintenant que et de phi est minimum pour le phi que je choisis. Donc il faut que j'écrive que pour toute variation delta phi de phi, la valeur moyenne ne change pas. Il faut donc que j'écrive que le delta de psi h psi sur psi psi, quand je fais varier phi de delta phi, est égal à 0. Alors plutôt que de minimiser ce quotient de deux quantités, en effet, même si psi psi égale 1, quand je varie psi de delta psi, il faut vérifier que psi psi change. Le produit solaire de psi par lui-même change. Donc il faut le mettre au dénominateur. Donc plutôt que de minimiser ce quotient de deux quantités, on va minimiser psi h psi avec la contrainte que psi psi doit rester égal à 1. Parce que là, on utilise la méthode des multiplicateurs de Lagrange, et donc l'équation variationnelle c'est delta de psi h psi et la contrainte moins lambda, où lambda est une constante, delta de psi psi, égale 0. Pour tout delta phi. Alors delta phi, comme phi est une fonction complexe, il y a une partie réelle delta phi, une partie imaginaire delta phi que je peux varier indépendamment. Donc si je peux varier delta phi et delta réel et imaginaire indépendamment, je peux varier delta phi étoile indépendamment. Donc il faut que j'annule le coefficient de delta phi étoile et le coefficient de delta phi. D'accord? Donc, je vais calculer delta psi h psi, moins lambda delta psi. Je vais calculer le coefficient de delta psi étoile, et je vais écrire que le coefficient de delta psi étoile est nul. C'est la condition pour avoir un extrémum. Alors, que vaut ceci? Alors, d'abord, le premier terme, je vais prendre le coefficient de savoir moins n. H bar 2 sur 2m. Non, pardon, n. Je dis moins h bar 2 sur 2m. Excuse. Intégrale de d3r de delta phi étoile de r. Quand je différencie cette quantité, le coefficient delta phi étoile, ça va être moins h bar 2 sur 2m, delta phi de r. Le deuxième terme, ça va me donner n, qui est déjà sorti, somme de d3r, delta phi étoile de r, que j'ai mis en facteur, plus l'extérieur phi de r. Alors, l'autre terme. Le terme d'interaction. Alors, si je différencie delta phi étoile ici, j'aurai donc delta phi étoile en parenthèse, plus comme j'ai mis n nombre facteur, j'aurai n moins 1 sur 2. Intégrale de d3r', v de r moins r'. Alors c'est phi étoile de r', phi de r', ça va me donner phi de r' en module carré, phi de r. Et le tout, bien sûr, multiplié par delta phi étoile de R. Maintenant, j'ai un deuxième phi étoile ici, qui est le delta phi étoile de R', et je vais avoir un terme exactement identique à celui-là, à part qu'ici, j'aurai delta phi étoile de R', et ici, il faudra que je remplace partout R' par R et R par R'. Mais c'est des variables muettes, puisque j'intègre sur R, et j'intègre sur R'. Donc je peux changer de notation, et appeler R' ce que j'appelle R, et R ce que j'appelle R'. Ça revient donc à doubler sur R. Alors, faites attention à les facteurs de n dans ce problème. Vous voyez, comme j'ai deux phi étoiles ici, la différentielle delta phi, je vais avoir delta phi étoile de R, delta phi étoile de R', mais comme j'intègre sur R' et sur R, les deux termes sont égaux et se doublent. Donc j'ai ici plus n moins 1. Et enfin, il me reste, bon là j'ai fini, moins lambda. Alors ici je vais avoir un produit de phi étoile phi à la puissance n. Quand je différencie, je vais avoir n fois delta phi étoile phi. Le n, je l'ai mis en facteur ici. Et je vais donc avoir ici moins, donc je peux fermer ici. Plus complète conjuguée. En fait, l'idée, ça va être le delta phi et non pas le delta phi étoile. Alors, je crois d'ailleurs que, laissez-moi vérifier, oui, je crois qu'il y a une erreur dans les notes, page 5, page 5.2, l'équation 5.8, j'ai oublié le phi de R ici. Dans l'équation 5.8, il faut, après le crochet, bien sûr, ajouter phi de R, j'ai oublié. Alors, comme... comme delta phi étoile de R peut être quelconque, je peux varier delta phi de R comme je veux. En particulier, je peux le varier partout égal à 0, sauf au point R. Il faut donc que le coefficient de delta phi étoile de R soit identiquement nul si je veux avoir un extrême 1. Donc il faut que j'annule le coefficient de delta phi étoile de R dans cette équation. Et ça me donne le résultat du calcul variationnel que je vais mettre ici. Avec la normalisation phi phi égale 1, j'obtiens donc moins h bar 2 sur 2m laplacien phi plus v extérieur r phi de r plus n moins 1 intégrale sur r' de v de r moins r' phi de r' en modulo carré le tout agissant sur phi de r égale lambda phi de r. Alors vous voyez que ceci, ça rassemble tout à fait une équation de Schrödinger aux valeurs propres d'une fonction phi de r avec un terme d'énergie cinétique, un terme d'énergie potentielle, et ceci-là, n-1 somme de d3 r', v de r moins r'. Ah, je m'excuse, j'ai oublié ici, en module au carré, bien sûr. Non, pas, non, bien sûr, pas, v de r moins r', phi de r' au carré, phi de r. Toute cette quantité, c'est une fonction de r, que j'appelle v moyen de r, et donc la signification physique est très simple. J'ai n-1 particule, avec une densité de probabilité dans l'espace au point... La probabilité de trouver dans l'espace au point R', c'est V de R' au carré, et elle exerce sur la particule au point R un potentiel V de R moins R'. Quand je sors sur R', ceci, c'est le potentiel moyen V moyen de R créé à la position R de la particule, une particule, par les N moins G autres, en supposant qu'elles sont toutes dans le même état. D'accord ? Donc finalement, je trouve l'équation du mouvement d'une particule dans le potentiel moyen créé par les n moins 1 autres. Alors comment on fait concrètement? Bien que je ne sois pas un spécialiste des calculs numériques, mais comment on fait concrètement? On peut prendre un phi 1, qu'on essaie d'intuiter le mieux possible, On met phi 1 dans le potentiel moyen, pas ailleurs. On connaît pas, il faut que la solution soit autocohérente, comme on dit, celle consistante. On prend phi 1, on le met là-dedans, on calcule le moyen avec de R avec phi 1, on met ça dans cette équation, et on résout l'équation de Schrödinger. À ce moment-là, on va trouver la solution, la valeur propre de cette équation, on va trouver phi 2, qui n'est pas en général égal à phi 1. À ce moment-là, on prend ce phi 2, on le remet dans le potentiel moyen. On recalcule de nouveau la solution de cette équation, on va trouver un phi 3, et ainsi de suite. Et si on est bien parti, ça va converger vers la solution phi 2 de cette équation. La solution, celle consistante. Alors, si... Ici, je n'ai fait aucune hypothèse sur V de R moins R prime. Si je le remplace, le vrai potentiel V de R moins R prime, par le pseudo-potentiel qui a la même longueur de diffusion, j'ai delta de R moins R prime, D sur D R moins R prime, facteur de R moins R prime, que j'ai longuement discuté la semaine dernière. Quand cette quantité-là n'a aucune singularité quand R tend vers R prime, D sur D de R moins R prime, R moins R prime, fonction de R moins R prime qui n'est pas singulière en R égale R prime, ça revient à remplacer ça par 1, et ça revient à remplacer le potentiel par G delta de R moins R prime. Et à ce moment-là, cette intégrale se simplifie, et j'obtiens V moyen de R égale L moins 1 G phi de R carré, parce que c'est une fonction delta ici, et ceci, comme L est très grand, L moins 1 peut être égal à L, c'est L G phi de R au carré. Phi de R au carré, c'est la probabilité qu'une particule soit au point R, multipliée par R, c'est la densité de particules au point R, donc c'est G N de R. Donc, le potentiel moyen, avec le pseudo-potentiel, c'est G fois la constante de couplage G que multiplie la densité de particules au point R. Et j'ai réécrit ici le terme d'interaction en supposant, en remplaçant B par le pseudo-potentiel, c'est N2 sur 2, en remplaçant Ln-1 sur 2 par N2 sur 2, G, et à cause de la fonction delta qui est ici, on obtient phi de R en module à la puissance 4. Alors maintenant, il y a quelque chose d'important à discuter, c'est que veut dire le paramètre lambda. Interprétation. Du multiplicateur de Lagrange. Auparavant, je vais maintenant réécrire l'équation de Gross-Pitalski ici. En remplaçant n-1 par n, je l'ai réécrit ici, d'abord avec la normalisation phi phi égale 1, c'est-à-dire somme de d3r phi de r au carré égale 1, c'est-à-dire aussi la densité de particules n de r, c'est n fois phi de r au carré, et je réécris l'équation de Gross-Pitalski qui est là-bas, je vais la redescendre un petit peu pour qu'on la voit. Alors c'est moins h bar 2 sur 2m laplacien phi plus l'extérieur de r phi de r plus ng, puisque j'ai remplacé maintenant v de r moins r' par g delta de r moins r', ng phi de r au carré phi de r égale lambda phi de r. Vous voyez que c'est une équation non linéaire, parce qu'il y a phi de r ici il y a phi de r au cube. Et ne regardez pas encore cette équation. Très souvent dans la littérature, on utilise aussi une autre normalisation pour phi. On prend phi phi égale n, c'est-à-dire somme de d3r phi de r au carré égale n, c'est-à-dire n de r, la densité de particules au point r, c'est égal phi de r au carré, en module. Auquel cas, on peut réécrire cette équation, mais à ce moment-là, au lieu d'avoir n phi de r au carré ici, j'ai phi de r au carré ici. Et l'équation de Gross-Pitalski s'écrit moins alpha par 2 sur 2m laplacien plus v extérieur phi égale plus g phi de r au carré en module phi de r égale lambda phi de r. Donc j'ai réécrit donc, l'équation de Gross-Pitalski qui apparaît dans la littérature avec deux normalisations qui varient d'un article à l'autre. Avant d'aller plus loin et d'interpréter lambda, je prends cette équation, je la multiplie par phi étoile de R, les deux membres, et j'intègre sur R. Et je vais voir, dans le membre de gauche, moins h bar 2 sur 2m, somme de d3r phi étoile laplacien phi, plus somme de d3r phi au carré v extérieur, plus gn somme de d3r phi 4 en module, égale lambda somme de phi 3r phi étoile phi qui est égal à 1, avec la normalisation c'est lambda. Donc j'ai ici une expression de lambda en fonction de phi étoile et de phi. Et maintenant, je passe à l'interprétation du multiplicateur de Lagrange. Ça, c'est un point important que je voudrais, sur lequel je voudrais insister. Je prends ici. D'abord, je réécris la fonctionnelle et de phi que j'ai trouvée tout à l'heure, que j'ai calculée en détail. La fonctionnelle et de phi, c'est et signature plus et piège plus et interaction. C'est n fois moins n par 2 sur 2m, somme de d3r phi étoile delta phi, ça c'est le terme d'énergie cinétique, la moyenne, plus n fois somme de d3r phi au carré en module d'extérieur. Et l'interaction, vous rappelez, c'est n, n moins 1 sur 2, somme de d3r, d3r prime, v2r moins a prime, etc. Si je remplace v par g delta de r moins a prime, ça va donner n2 sur 2. Je remplace n, n moins 1 sur 2 par n2 sur 2, g somme de d3r, phi 4. Ça, c'est la valeur moyenne de l'énergie pour un ensemble de bosons, tous dans l'état phi. Alors, cette énergie dépend bien sûr du nombre de particules n. Si je change n, cette énergie va changer. Elle va en dépendre de deux manières. D'abord, explicitement, en effet, dans l'expression que j'ai pour e de phi, n apparaît explicitement. N apparaît ici, et n apparaît ici. Elle en dépend également implicitement, puisque si je change n, je change l'équation de Gross-Pitaevsky, et je change la solution phi. Donc phi dépend de n. La solution de l'équation de Gross-Pitaevsky dépend de n, parce que le champ moyen dépend de n. Donc, si je calcule la dérivée de l'énergie totale moyenne par rapport à n, je vais avoir des termes qui proviennent de la dérivation explicite ici. La dérivation par rapport à n de ce terme va me donner simplement moins n par 2 sur 2n, somme de d3r phi étoile delta phi, plus somme de d3r phi carré d'extérieur. Ici, n2 sur 2, la dérivée par rapport à n va me faire partir le facteur 2 qui est ici, plus ng, somme de d3r phi 4. Plus j'ajoute la dérivée implicite, d et sur d phi étoile, d sur d phi, pardon. Il faudrait d'ailleurs que je rajoute d sur d phi étoile, hein, bien sûr, mais l'argument est le même. D sur d phi, que multiplie d phi sur dn. Quand je change phi de delta phi, et change, et pourquoi j'ai changé phi de delta phi, c'est parce que quand j'ai changé n de delta n, phi a changé de delta phi. Donc, ça c'est la variation de la fonction d'onde quand je change n d'une unité, et ça c'est la variation de delta E quand je change phi de delta phi. Mais, puis j'ai oublié ici, il faudrait que j'ajoute en toute rigueur un terme sur phi étoile. Mais ça fait rien, ils sont nuls. En effet, pour la solution de l'équation, j'ai trouvé la solution de l'équation de Gross-Pitaevsky, j'ai trouvé l'équation de Gross-Pitaevsky, c'est exprime que E de phi est stationnaire pour toute variation delta phi de phi. Donc la dérivée fonctionnelle de delta E par rapport à delta phi est nulle. Donc ceci est nul. Par définition même, si phi est solution de l'équation de Gross-Pitaevsky. Donc, effectivement, quand je change n, il y a également un changement en principe de la fonctionnelle parce que phi a changé, mais comme phi minimise la fonctionnelle, le dernier terme est nul. D'accord? Donc, j'ai ici une expression des phi sur dn. Par ailleurs, c'est écrit au tableau, là, c'est l'équation qui est en verte ici, j'ai trouvé que lambda égale moins n par 2 sur 2n, somme de d3r phi étoile delta phi, plus somme de d3r phi carré extérieur, plus gn fois somme de phi 4. Quand je compare cette équation, j'ai la même quantité là et là, j'en déduis que lambda, c'est d de e phi sur dn. Lambda, c'est la variation de l'énergie totale du système quand je varie n d'une unité. D'accord? Donc lambda, c'est la variation de l'énergie totale du système quand j'ajoute une particule au système. Et ça, si je reviens au cours de l'an dernier, j'avais démontré que DE, la variation de l'énergie totale, c'est moins PDV, ici V n'a pas d'importance, on est dans un piège, plus TDS, plus mu DN. Et mu, c'est le potentiel chimique, c'est la variation de l'énergie totale quand on ajoute une particule à volume et à entropie constante. Ici, on est à 0 degré, on est à 0 degré, donc le système est toujours dans un état pur et son entropie est toujours nulle. D'accord? Donc, ce que j'ai calculé ici, c'est la variation d'énergie interne à entropie constante et à volume constante, et puis je suis dans un piège, Et donc ceci, ce n'est rien d'autre que le potentiel chimique. Donc, j'ai identifié quelque chose d'important, c'est que le paramètre lambda qui apparaît dans l'équation de Gross-Pitaïevski, la valeur propre de l'équation de Gross-Pitaïevski, c'est le potentiel chimique. Donc, à partir de maintenant, donc, je remplace ici lambda par mu, et lambda par mu. J'insiste beaucoup, si vous voulez, ça paraît évident ici, quand on dérive par rapport à M, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi ce terme-là, mais que ce terme-là est nul parce qu'on a justement pris pour fil la solution de l'équation de Gross-Pitaïevski. Bon, ça, je crois que j'ai donc maintenant l'équation avec tous les paramètres qui sont interprétés. Maintenant, avant d'aller plus loin, on va établir quelques relations générales. D'abord, bien sûr, j'ai E égale E cinétique plus E biais plus E interaction. C'est je crois, ce que j'ai là. E cinétique, E interaction, E potentiel, E biais, E interaction. Si je regarde maintenant lambda, le potentiel chimique est ici, lambda qui est égal à mu, j'ai le premier terme c'est E cinétique divisé par N, le deuxième terme c'est E piégeage divisé par N, et le troisième terme c'est E interaction divisé par N, un facteur de près. Donc le potentiel chimique, mu, c'est 1 sur N, E cinétique, plus E piège, plus 2 interactions, E interactions. Alors vous voyez ici, c'est clair, hein, mais ici, quand j'ai dérivé ça par rapport à M, j'ai fait partir le facteur 2, et ici maintenant que je comparais ce terme à celui-là, il faut que je prenne ce terme, je le divise par N, et que je multiplie par 2. Alors, on peut trouver pourquoi il y a un facteur 2 ici et qui n'existe pas là-dessus. Donc, si vous voulez, pourquoi mu n'est pas égal à E total sur N. Ouais, c'est facile à comprendre. Quand mes N particules sont dans le piège, l'interaction, c'est le nombre de paires, Nn-1 sur 2, qui multiplie l'interaction par paire. Donc, c'est Nn-1 sur 2, Epsilon interaction, c'est l'énergie d'interaction moyenne par paire. Quand j'ai n moins une particule et que j'en amène une nème, les n moins une sont déjà là. Et le travail qu'il faut que je fasse, il faut que je lutte contre l'énergie d'interaction, si c'est répulsif, exercée par les n moins une particule sur la particule que j'amène. Donc ce qu'il faut que je fournisse comme travail pour amener la particule, c'est n moins une fois, c'est-à-dire n plus n moins 1, c'est de l'ordre de n, n fois l'énergie d'interaction. D'accord ? Et d'où là le facteur 2. C'est 1 sur n fois l'énergie d'interaction. D'accord ? Et l'énergie d'interaction, toutes les particules sont déjà là, elles interagissent. Quand j'en amène une de plus, elles sont déjà là, les n moins 1 qui sont dans le piège. Il faut que je lutte donc contre n moins 1 fois l'énergie d'interaction individuelle. Évidemment, il ne faut pas que j'oublie que quand je fais ça, je change aussi la fonction d'onde, quand j'amène une particule, mais que là encore, comme phi rang minimum est de phi, l'énergie totale ne change pas dans cette transformation. La variation de phi n'est pas importante. Alors, je vais maintenant démontrer une autre relation qu'on appelle le théorème de Virchow. Établir une relation qui montre une autre relation entre E cinétique, E piège et interaction qui dépend uniquement de la loi de puissance du piège. Ça, c'est important. Si vous voulez, ces trois relations qui ont été écrites au tableau sont utiles parce que Quand on parle de l'équation de Schwarz-Pitanski, qu'on fait des calculs numériques dessus ou qu'on fait des approximations, ces trois équations sont exactes, celles que j'ai établies ici. Et il est intéressant de pouvoir comparer les résultats numériques ou les résultats d'approximation sur l'équation de Schwarz-Pitanski à des relations exactes. Je pourrai m'en servir la semaine prochaine. Alors je vais prendre un piège harmonique, parce que c'est le plus courant, un piège qui varie en R2. Et je vais commencer, si vous voulez bien, à faire la chose suivante. Je vais imaginer que je fais une transformation sur la phi, j'ai trouvé la solution de l'équation Gross-Pitanski, et je vais faire varier phi d'une certaine manière, je vais faire une dilatation le long d'un axe. Je vais calculer la variation d'énergie cinétique dans cette dilatation, la variation d'énergie potentielle, la variation d'énergie d'interaction. Ça va être simple si je connais la loi de puissance du piège. Et je vais écrire que pour une variation infinitésimale, comme E stationnaire, cette variation ne change pas l'énergie totale. Et j'aurai ainsi, comme les trois énergies ne se changent pas de la même manière, il y aura une nouvelle relation entre E cinétique et interaction et les pièges. Alors, je fais une dilatation. J'associe à phi, je remplace phi par phi tilde de xyz, ou phi tilde de xyz, c'est 1 plus nu à la puissance 1/2, phi de 1 plus nu xyz, où nu est un nombre réel. Alors, vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai changé l'échelle le long de l'axe x, c'est-à-dire que j'ai fait une dilatation ou une contraction suivant le signe de nu le long de l'axe x. Et le facteur 1 plus nu 1/2 ici, c'est pour garder la normalisation. En effet, si je calcule la normalisation de phi et de tilde, c'est somme de x, y, z, phi étoile de x, y, z, c'est 1 plus nu somme de dx, y, z, phi de 1 plus nu x, y, z, je change de variable x' égale 1 plus nu x, donc ça devient phi de x' au carré, et dx c'est dx' sur 1 plus nu, et de 1 plus nu sur bon, et comme ceci est normé, j'obtiens que cette transformation fait passer d'une fonction à une fonction dilatée, mais en même temps on a changé son amplitude pour regarder norme égale à 1. Alors, comment se transforme l'énergie cinétique le long de x? Je vous rappelle que l'énergie cinétique le long de x, c'est m fois h bar 2 sur 2m, l'intégrale sur le volume du gradient de phi. Et comme seul le gradient de phi le long de x a changé, c'est de somme de dx, dy, dz, dφ tilde sur dx au carré. Que vaut dφ tilde sur dx? C'est 1 plus nu à puissance 1/2 dφ de 1 plus nu x, y, z sur dx. Et en prenant ce changement de variable, c'est 1 plus nu dφ sur dx égale dφ sur dx', dx' sur dx, c'est-à-dire 1 plus nu, c'est 1 plus nu puissance 3/2 dφ tilde de x', y, z sur dx'. De sorte que l'énergie cinétique ici s'écrit de cette manière, et comme dx' c'est dx fois 1 plus nu, comme dx, pardon, c'est dx' sur 1 plus nu, j'obtiens E cinétique tilde de x, c'est 1 sur 1 plus nu, 1 plus nu au cube, n h bar 2 sur 2m, ceci, et ceci, ce n'est rien d'autre que l'énergie cinétique le long de la... Je m'excuse, ici, il n'y a plus de tilde, bien sûr. Donc, dans la dilatation, caractérisée par nu, l'énergie cinétique devient E cinétique de x tilde égale 1 plus nu au carré, E cinétique x. Bon, ça c'est l'énergie de piège maintenant. Alors, je m'excuse, là encore, il y a des notes, il y a une erreur dans les notes. L'énergie de piégeage. C'est page 7, la formule 532. En dehors de l'intégrale, j'ai rajouté un x2 après oméga x carré. Il, évidemment, dans l'intégrale, il n'y a pas le mètre dehors. Donc, il faut enlever le x2 qui est à côté de l'oméga x carré. Je suppose que le potentiel de piégeage est harmonique, c'est-à-dire qu'il est 1/2 de m oméga x carré x2 plus y2 plus z2. Et l'énergie de piégeage le long de x, c'est n fois 1/2 de m oméga x carré somme de dx, dy, dz, x2 phi. Je remplace phi par son expression, j'exprime partout x en fonction de x', c'est des choses qui sont écrites en vert ici, et de manière élémentaire, je trouve que E piège de x devient E piège de x tilde, qui est 1 sur 1 plus nu carré, E piège de x. Alors ça veut dire que si je dilate la particule, l'énergie potentielle va diminuer, ou plutôt, pardon, si je dilate la particule, l'énergie cinétique va diminuer, l'énergie potentielle va augmenter. D'accord? Donc les deux énergies varient en sens opposé. Enfin, l'énergie d'interaction, c'est 1/2 de Ng, somme de dx, dy, z, phi de 4. Même chose, je change ici tout, je change phi dans phi de x', je remets partout. J'ai ici 1 plus nu carré parce que j'ai phi 4, et que phi est changé en 1 racine de 1 plus nu, donc comme je mets 4, j'ai 1 plus nu carré, et j'obtiens que et interaction égale 1 plus nu, tilde égale 1 plus nu et interaction. Et j'en conclus que, après la dilatation, l'énergie totale est devenue E tilde, et j'ai E tilde moins E égale E cinétique X 1 plus nu carré moins 1, plus E piège X 1 sur 1 plus nu carré moins 1, plus E interaction 1 plus nu moins 1. Comme je vous l'ai indiqué, chacune des énergies se transforme différemment dans la dilatation et dans la contraction. Alors maintenant, je prends nu infinitésimal, c'est-à-dire que je prends nu égale dénu, et 1 plus nu au carré moins 1, ça fait 2 dénu. 1 sur 1 plus nu carré moins 1, ça fait moins 2 dénu, et 1 plus nu moins 1, ça fait dénu. Et je trouve que dE, dans une fraction infinitésimale, c'est dénu fois 2e sinétique, 2e cinétique le long de x moins 2e piège le long de x, plus E interaction. Et comme la dilatation, c'est un exemple particulier de infinitésimale, c'est un exemple particulier de variation infinitésimale de phi, et que E est stationnaire dans une variation infinitésimale, le coefficient de dénu doit être égal à 0. Et j'obtiens donc le théorème du Viriel le long de x, qui est 2E cinétique de x, moins 2C piège le long de x, plus E interaction égale 0. En particulier, si les particules n'interagissent pas, je trouve que l'énergie cinétique est égale à l'énergie potentielle, que je sais bien pour le circulateur harmonique. Alors, je prends trois équations analogues pour y et z, et je les ajoute, et j'obtiens E cinétique de x plus y plus z, ça fait 2e cinétique total, moins 2e piège total, plus 3e interaction égale 0. Voilà donc une autre relation exacte dans un gage harmonique entre les diverses énergies de la partie. Bien sûr, en supposant toujours, grand spécialiste, en supposant toujours l'état, un état produit. Bien, voilà ce que je peux dire de général sur l'équation de Gross-Pitaïsky, et dans le temps qui me reste, j'ai le temps d'aborder un problème intéressant, qui est le problème de la force compensable dans une voie. C'est une vraie boîte, c'est-à-dire, on parle des conditions limites analytiques, c'est vraiment deux murs le long de x, deux murs le long de y, deux murs le long de z, et la fonction d'onde doit s'être annulée, bien sûr, aux extrémités des deux murs. Alors, regardons d'abord ce qui se passe sans interaction. Si les particules n'interagissaient pas, l'état fondamental serait trivial. Toutes les particules sont dans l'état fondamental de la boîte. Bon, l'état fondamental de la boîte, par exemple, le long de l'axe Z, l'état fondamental de la boîte est ça. C'est une sinusoïde, phi 0 de Z, c'est racine de 2 sur L, sinus, selon Z, pi, Z, sur F. Et le carré de phi qui donne la densité de particules, ça va être quelque chose comme ça. Et là, c'est très choquant. Ça voudrait dire que il y a une concentration des particules au milieu de la boîte. Et ça varie avec une distance caractéristique qui est la longueur de la boîte. Alors, si j'ai des interactions, c'est clair que
Une situation de ce type ne peut pas se maintenir.
Après des collisions de particules, la densité va s'homogénéiser dans l'espace. Les régions de forte densité vont, par collision, diffuser vers la région de basse intensité, et je vais avoir quelque chose qui va être pratiquement uniforme dans toute la boîte, sauf près des parois. Parce que les parois, il faut bien que la densité s'annule aux parois. Donc en présence d'interactions, les interactions jouent un rôle essentiel ici pour homogénéiser la densité. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je m'attends à ce que la densité dans la boîte, au lieu d'être comme ça, de varier avec une distance caractéristique de L, va être pratiquement constante partout, sauf donc c'est N de Z, sauf au voisinage de la boîte, des parois, où elle va s'annuler. Et la question qu'on peut se poser, c'est que vaut cette longueur caractéristique Xi0, où la densité parle de la valeur homogène qu'elle a au milieu de la boîte à 0 sur la paroi. C'est une longueur caractéristique du problème qu'il faudrait maintenant essayer d'évaluer. Je vais vous montrer que l'équation de Gross-Pitalski permet de l'évaluer. D'accord? Alors, cette distance, c'est un paramètre important dans les problèmes de condensation de Bohr. J'ai du mal à trouver un nom précis. En anglais, ça s'appelle « healing length ». Donc, on peut l'appeler ici « longueur de relaxation ». Healing length, ça veut dire exactement longueur de cicatrisation, longueur de récupération, c'est-à-dire que quand on fait une perturbation au condensat en mettant la paroi, c'est la distance qu'il faut pour que le condensat récupère et retrouve sa valeur uniforme dans la boîte. C'est sa longueur de récupération, c'est une relaxation dans l'état de position. C'est pour ça que longueur de relaxation, c'est une bonne terminologie. Alors pour trouver la longueur de relaxation, on peut soit résoudre brutalement l'équation de Gross-Pitalski, soit faire des arguments physiques. Et ce que je vais d'abord essayer, c'est plutôt de vous présenter des arguments physiques, parce que je crois qu'ils permettent de mieux comprendre ce qui se passe. D'abord, si vous voulez, ce que je vais d'abord vous montrer, c'est que la répartition uniforme dans toute la boîte, c'est celle qui minimise l'énergie d'interaction. Alors comment faire ça? Je vais donc commencer par valeur minimale de réinteraction. Alors, je prends d'abord la répartition uniforme. Sans préoccuper les parois. Et ça se met à trouver que N0, c'est N sur mu. Et interaction 0, qui vont faire demi G somme de G3R N carré de R, qui se remplace N carré par N0, sur N demi, de G N0 carré V. Maintenant, je prends une répartition inhomogène quelconque. On a l'énergie d'interaction et interaction, moins et interaction de 0. Je vais calculer maintenant la nouvelle interaction, l'énergie d'interaction, comparée à l'énergie d'interaction pour une répartition uniforme. Ça va être 1 de demi de G, somme de V3R, N carré de R, moins N0 carré. Et la question que je me pose, est-ce que ça c'est positif, c'est nul ou c'est négatif? Alors, ça, c'est un petit calcul très simple, permet de montrer que c'est toujours positif. En effet, que vaut cette intégrale I égale 1 demi somme de D3R, L carré de R moins 0 carré, avec bien sûr la condition que je travaille à un nombre de particules constantes, c'est-à-dire que somme de D3R de N de R égale 1, égale N0G. Alors, je vais d'abord calculer la quantité J égale somme de D3R, l'intégrale de N de R moins N0 au carré. N de R moins N0, le tout au carré. N de R moins N0 au carré, c'est N carré de R moins 2N0 N de R plus N0 au carré. L'intégrale de ce terme, c'est moins 2 somme de D3R N0 N de R, je peux sortir N0, c'est moins 2N0 somme de D3R N de R qui vaut N0V, donc c'est moins 2 N0 carré V. Le dernier terme, somme de D3R N0 carré, ici là, c'est N0 carré V. Si j'ajoute donc ça et ça, j'obtiens que J égale somme de D3R N carré de R moins 2 plus 1, ça fait moins N0 carré V, c'est-à-dire somme de D3R N carré de R moins 0 carré, qui est là. De sorte que ça, je peux encore l'écrire 1 demi de G somme de D3R N de R moins N0 le tout au carré, et ça c'est positif ou nul, et ce n'est égal à 0 que si N de R égale N0. Conclusion, quand j'ai dans ma boîte, l'énergie d'interaction prend sa valeur minimale et interaction 0 pour une répartition uniforme. Tout changement de cette répartition uniforme se traduit par une augmentation de l'énergie d'interaction moyenne. D'accord ? Alors maintenant je comprends, on va comprendre mieux ce qui se passe. On va trouver que la longueur de relaxation psi 0 réside dans un compromis entre énergie cinétique et énergie potentielle. Voilà ma boîte. Je vais travailler à une dimension, si vous le permettez. En fait, je vais supposer, si on va être plus rigoureux, je vais supposer que ma boîte est très très grande le long de Y, et de long de X et de Y, et qu'elle a une longueur L le long de Z. D'accord ? Et je vais m'intéresser, disons, à la manière dont la densité tend vers zéro quand je me rapproche le long de l'axe Z des deux parois. Et je vais regarder l'énergie d'une fraction de condensat contenue dans un cylindre d'axe parallèle à Z, de surface S et de longueur L. Bon, alors, le long de l'axe Z, je vais d'abord dessiner en blanc, ici, la densité N0, que j'obtiendrai si mon condensat était réparti de manière uniforme dans la boîte. Et je vais dessiner en rouge ce qui se passe quand je tiens compte du fait que N s'annule au voisinage de la paroi. Voilà. Ma densité N va partir comme ça. Elle va atteindre une certaine valeur ici. Elle va atteindre une certaine valeur ici. Comme j'ai enlevé des particules ici, forcément ça va augmenter ici. Et ici, je vais avoir une densité au milieu qui va être N0 tilde. Et ici, je prendrai une longueur ici psi, une longueur psi, la même ici. Et je dis la chose suivante. Si j'augmente psi, quand psi augmente, le gradient ici diminue. D'accord ? La variation spatiale de N diminue, donc la variation spatiale de phi aussi diminue, donc l'énergie cinétique diminue. Mais maintenant, l'intégrale de cette quantité-là, la différence entre N de R et moins et N0 va augmenter, et j'aurais mis de plus en plus de particules ici, et l'interaction va croître. Donc j'ai deux quantités qui varient en sens inverse, quand j'augmente psi, l'énergie cinétique qui diminue et l'énergie d'interaction qui augmente, on comprend qu'il y a un compromis entre les deux qui va minimiser les interactions plus les cinétiques. D'accord ? Et c'est ce compromis qu'on va calculer, et en calculant la valeur optimale de psi, on va trouver la valeur de la longueur de relaxation. Alors, regardons d'abord l'ordre de grandeur de et cinétique. Alors d'abord, calculons des phi sur des n. Alors, dφ sur dz, c'est φ, c'est la racine carrée de n, hein, puisque n, c'est φ carré, que pour l'état fondamental, φ est réel, je peux donc écrire tout simplement φ carré égale f. Donc, c'est racine de n0, c'est là, sur φ. C'est à peu près égal à racine de n0 sur φ, parce que φ, bien sûr, est petit, sûrement une boîte très très grande devant φ. Donc, l'énergie cinétique, c'est quoi? C'est l'intégrale du gradient, c'est h bar 2 sur 2n, que multiplie la surface, que multiplie somme de 0 à n, de dφ sur dz, dz. Dφ sur dz, ce n'est non nul que là et là. Donc cette intégrale, c'est 2 ψ, cette partie-là et cette partie-là, que multiplie dφ sur dz au carré, c'est-à-dire n0 sur ψ2. Donc j'obtiens 2 sans a, ψ2 ψ, et j'obtiens E cinétique, et bien h par 2 sur n, S. N0, 1 sur psi. Et je retrouve bien ce que je disais tout à l'heure. Quand j'augmente psi, je diminue les gradients et je diminue donc l'énergie cinétique. Bon, ça c'est l'énergie cinétique. Calculons maintenant l'énergie d'interaction. Alors, je reviens à cette image-là. Les E d'interaction, c'est 1 demi de GS somme de 0 à L de N carré de Z et Z. Alors, c'est l'intégrale de là, si je suppose que L est égal à N0 de là à là, c'est donc 1 demi de GS n moins de xi, je prends la longueur totale, je laisse xi ici, xi ici, n moins de xi, qui multiplie n0 tilde carré. Alors je m'explique dans les notes, je n'ai pas mis n moins de xi. Comme je calcule un ordre de grandeur, ce n'est pas très grave, c'est des facteurs 2, mais plus précisément, il faut mettre n moins de xi ici, puisque l'intégrale de n0 carré, c'est de là à là, en supposant que c'est une sorte de créneau ici. C'est donc 1 demi de gsn, 1 moins de xi sur n, n0 tilde carré. Maintenant, j'exprime N0 tilde en fonction de N0? Je dis que le nombre total de particules avec une densité N0 dans cet intervalle, c'est-à-dire N0S fois L moins de psi, est égal au nombre total de particules homogènes N0 dans L. Donc la relation entre N0 tilde et N, c'est N0 tilde L moins de psi S égale N0 LS, c'est-à-dire N0 sur N, N0 tilde sur N0 égale L sur L moins de psi, c'est 1 moins de psi sur L au dénominateur, c'est 1 plus de psi sur L. Et donc l'énergie d'interaction, c'est 1 demi de GSL, N0 carré tilde, c'est N0 carré, 1 moins 2 xi sur L, celui-là, que multiplie 1 plus 2 xi sur L au carré, celui-là. Je calcule le terme d'ordre plus bas en xi. 1 plus 2 xi sur L au carré, c'est 1 plus 4 xi sur L. Et 1 plus 4 xi sur L, que multiplie 1 moins 2 xi sur L, c'est 1 plus 2 xi sur L. Par rapport aux notes que j'ai données, comme j'ai tenu compte de ce facteur ici, au lieu d'avoir 2 xi sur L, dans les notes, j'ai 4 xi, donc c'est un facteur 2 plus petit. Et j'obtiens donc que E interaction égale 1 demi de GSL N0 carré, c'est E interaction 0, plus GS N0 carré xi. Si maintenant je me rappelle que, en fonction de la longueur de diffusion, G c'est 4 pi h bar 2 sur L, A, j'obtiens E interaction égale E interaction 0 plus un terme linéaire en xi, B xi, où B c'est 4pi h bar 2 sur L à n0 carré S. Et je trouve effectivement que l'énergie d'interaction croît avec psi. Donc finalement, j'ai tracé ici, en fonction de psi, l'énergie cinétique A sur psi, où A est donnée par cette formule, et l'énergie d'interaction, qui est une droite, P psi, où B est donnée par cette formule. Quand j'ajoute les deux, j'obtiens une courbe qui a un minimum. et le minimum est obtenu pour psi minimum, tel que qui annule la dérivée de a sur psi plus b, c'est-à-dire moins a sur psi minimum carré plus b égale 0, c'est-à-dire psi minimum égale racine de a sur b. Et quand je remplace a et b par leur valeur, s s'en va bien sûr, h bar 2 s'en va aussi, n0 carré et n0 simplifie, et j'obtiens psi minimum. E sur racine de 4pi à n0. En fait, dans la littérature, on a un racine de 8pi et la longueur de relaxation est définie par pi0 égale 1 sur racine de 8pi à n0. Alors, il est intéressant de sentir un peu mieux ce que représente cette grandeur. Que vaut n0 chez x ? C'est la densité de particules. J'ai n particules dans un volume V, et n0 c'est la densité de particules. Chaque particule, si j'appelle n la distance moyenne en particules, chaque particule occupe un volume n cube. Donc n c'est 1 sur n cube. D'accord ? Donc n0 c'est 1 sur n cube. Où n, c'est la distance moyenne en particules. Alors, si je remplace n0 par n cube, je vais monter n cube, racine de n cube en haut. Racine de n cube, c'est n racine de n. Et j'obtiens donc que psi0 est égal à la distance moyenne en particules que multiplie racine carrée de n sur 8pi. Et puis on voit jamais une longueur. Et, en général, pour un gaz dilué, la distance moyenne en particules est beaucoup plus grande que la longueur de diffusion qui caractérise les collisions et qui est de l'ordre de la portée du potentiel. Et vous voyez donc que la longueur de relaxation est plusieurs distances moyennes en particules. Et en réflexion faite, on aurait pu trouver cette valeur tout de suite par des arguments dimensionnels, parce que dans le problème dans une boîte, on n'a que deux grandeurs, on a A qui caractérise les collisions, et N0 qui caractérise la densité de particules, et c'est la seule longueur qu'on peut faire avec A et N0. Enfin, pour vous donner une impression plus solide, on peut retrouver cette grandeur maintenant plus précisément en partant de l'équation de Gross-Pitaïsky. Voilà l'équation de Gross-Pitaïsky à une dimension. Moins h bar 2 sur 2n, d2 sur dz2 de phi 2z plus g phi 2z cube égale mu phi 2z, en supposant phi 2z réel, ce qui est le cas pour l'état fondamental la plupart du temps. Quand je suis loin des parois, phi 2z est plat, et donc sa dérivée est nulle. Donc quand je suis loin des parois, cette équation me donne mu égale, je simplifie par phi de z, mu égale g phi de n sur 2 au carré. Phi de n sur 2 au carré, c'est n0 au centre. Donc mu c'est gn0 tilde. Et comme je suppose que psi est très petit devant n, c'est de l'ordre de gn0. Donc le potentiel chimique dans une boîte, ça c'est un résultat important, le potentiel chimique dans une boîte c'est g fois n0 où n0 est la densité de particules n sur v. Donc je peux réécrire l'équation de Gross-Pitaïsky sous la forme moins h bar 2 sur 2n, d2 sur 2n de phi 2z plus g phi 2z au cube égale g n0 phi 2z. Je remplace g par 4pi n par 2 sur n a, ou a égale longueur de diffusion, et je multiplie tout par moins n de 2n sur n bar 2, et j'obtiens d2 sur dz de phi 2z moins 8pi a phi 2z cube plus 8pi a n0 phi 2z égale 0. Je change de variable pour faire partir cette quantité. Je pose z égale zeta égale z sur psi 0, où psi 0 c'est 1 sur racine de 8pi à n0. Ça me fait partir ça. Et j'obtiens d2 sur d zeta de phi de z moins 1 sur n0 phi de z zeta au cube plus phi de zeta égale 0. Et ça c'est une équation différentielle dont on peut trouver la solution. Je la parachute, hein, vous vérifiez par calcul que ça marche. La solution de cette équation, une solution de cette équation, c'est phi de zeta égale racine de n0 tangente hyperbolique de zeta sur racine de 2, de sorte que si je trace ici phi de z sur psi 0 en fonction de z sur psi 0, j'obtiens une courbe qui part de 0 et qui tend vers une valeur constante racine de n0, c'est ce que je cherche, avec une portée caractéristique qui est de l'ordre de quelques fois xi0. Donc je retrouve bien que la fonction d'onde part linéairement de 0 pour atteindre sa valeur stationnaire au bout d'une longueur de l'ordre d'un multiple simple de xi0, et donc la carrée de phi0, c'est une courbe qui va partir paraboliquement, qui va tendre vers n0 avec une longueur caractéristique et de l'ordre de quelques xi0. Bien, ça c'est une première application donc, de Gross-Pitaïevski. La semaine prochaine, je prendrai maintenant un condensat dans un piège harmonique et j'essaierai de calculer la forme qu'il prend, c'est-à-dire le rayon du condensat, sa densité, son potentiel chimique, son énergie moyenne. J'essaierai de trouver tout ce qu'on peut prévoir et qui est observable expérimentalement sur un condensat interagissant dans un piège harmonique.